Qu'on soit amateur passionné ou professionnel chevronné, on s'imagine connaître assez bien les grandes lignes de l'histoire. L'Empire romain, par exemple, a fortement façonné les différents pouvoirs qui lui ont succédé en Europe. Le débarquement de Christophe Colomb, sur le continent américain, a permis, lui, l'essor de la mondialisation. Bref, ce genre de truc. Bien sûr, il y a des nuances à apporter, on le sait, mais on a à peu près en tête le gros du tableau. Et à plus forte raison qu'au fil du temps, de plus en plus de savants consacrent leur vie à l'étude de l'histoire. Alors, comment se pourrait-il donc qu'en pleine première moitié du 21e siècle, on développe encore de nouvelles interprétations qui remettent largement en question certaines de ces grandes figures ? Eh bien, laissez-moi vous parler un petit peu des nomades d'Asie centrale et de la fondation de l'Empire mongol par Genghis Khan. Parce que dernièrement, il y a pas mal de trucs qui ont bougé et franchement, ça vient changer beaucoup de choses dans notre compréhension des sociétés du passé. Alors là, je vous dis Genghis Khan, hein, parce que dans la francophonie en général, c'est la prononciation la plus répandue. Mais il y a plein d'orthographes et de prononciations différentes, comme Genghis Khan ou encore Genghis Khan. Et la vraie prononciation, c'est même Chinggis Khan. En tout cas, il y a vraiment peu de chances que vous ayez jamais entendu parler de lui. Mais avant de rentrer dans les détails, eh ben je tenais à vous dire sur un côté plus perso, que ça fait maintenant plus d'un an que je suis sobre. Si vous me suivez sur Insta, j'en ai déjà parlé, j'étais très addict au coca. Ça fait 20 ans que j'essayais d'arrêter et malgré de nombreuses tentatives, je finissais toujours par replonger. Mais là, ça fait un an, ça me fait assez plaisir. Et j'ai réussi à tenir aussi parce que je me suis aidé de quelques alternatives, hein, notamment pas mal d'eau gazeuse qui est ensuite devenue de l'eau plate. Mais aussi, de temps en temps, quand c'est la fête, un petit jus de fruits ou un petit Oli. Oli, j'ai découvert ça il y a quelques années quand ils m'ont contacté pour bosser avec eux. Avant ça, j'avais jamais sauté le pas. Et je peux vous dire qu'on a eu de la chance qu'Oli, ça existait pas sous Genghis Khan. Parce que les Mongols, ils auraient eu tellement d'énergie qu'ils auraient traversé l'Atlantique à la nage et qu'ils auraient englouti l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud avant d'asservir les manchots en Antarctique, puis de remonter pour mettre la pilule à leurs cousins, les pingouins en Arctique. Bref, chez Oli, on trouve vraiment de tout. Des milkshakes, des boissons hydratantes pour les sportifs, des iced tea et des boissons énergisantes. Le point commun de toutes ces boissons, c'est que c'est sans sucre, hein, d'où la bonne alternative au soda. Alors, c'est comme tout, hein, faut pas aller boire 5 litres de Oli par jour, mais vraiment, ça fait partie des trucs qui, moi, m'ont un peu aidé et que je peux conseiller. En plus, vraiment, tout le monde peut y trouver son compte parce que, y a plein de parfums différents. Moi, par exemple, mon préféré, c'est le mûr et thé noir de la gamme Iced Tea, mais là, j'en ai plus, donc je peux plus vous le montrer. Désolé. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Genghis Khan, il aurait bien aimé le packaging, hein, avec toutes ses couleurs, le vert des steppes, le rouge du sang de ses ennemis, le bleu ou le noir qu'il laisse après avoir mis un petit coup dans la tronche. Et puis, faut se dire qu'avec un pot de Oli, hein, on peut faire l'équivalent de 50 canettes. Donc en plus, Genghis Khan, il aurait pas dégueulassé la nature en les laissant traîner partout avec ses gars. Bref, si vous avez jamais testé, il y a plusieurs starter sets que propose Oli avec des échantillons de plein de parfums. Comme ça, vous pouvez tester avant de choisir un gros pot de vos saveurs préférées. Vous avez 5€ de réduction sur votre première commande avec mon code NOTABENE 5 hein, en cliquant sur mon lien en description et 10% de réduction sur toutes vos autres commandes avec mon code NOTABENE. Allez, maintenant on retourne du côté de Genghis Khan et je vous préviens, ça va piquer un petit peu hein, parce que ça peut changer votre image du bonhomme.
Au tournant des 12e et 13e siècles, ce chef de guerre a unifié les différentes tribus nomades du plateau mongol, jusqu'alors plongées dans d'interminables et chaotiques guerres claniques. Pour réussir à construire ce puissant empire, il canalise la redoutable férocité guerrière des cavaliers des steppes dans une rigoureuse organisation militaire de son invention, le système décimal. Soit des unités de 10, 100, 1000 et 10 000, où chaque chef d'unité n'a qu'à transmettre ses ordres à ses 10 subalternes. Un système qui permet une grande rapidité et une grande efficacité, et où, entre autres, nul ne peut quitter son unité sous peine de mort. Grâce à ça, les Mongols roulent sur l'essentiel de l'Eurasie en quelques décennies à peine, jusqu'à devenir l'un des plus grands empires de l'histoire. Si dans cet exercice Genghis Khan est le meilleur, il n'est en tout cas ni le premier ni le dernier. D'autres empires nomades, avant comme après lui, ont émergé du chaos tribal de la steppe, renversant tout sur leur passage, souvent à l'initiative d'un charismatique chef de guerre. On peut évoquer par exemple les Huns d'Attila au 5e siècle, les Seljoukides de Toughroul au 11e siècle, ou encore les Timourides de Tamerlan au XIVe et XVe siècle par exemple. L'Empire mongol, c'est donc loin d'être un cas isolé. Les populations sédentaires sont régulièrement victimes de ces ouragans des steppes, et assez vite, ils se posent des questions. Parce que comment de telles puissances peuvent-elles émerger alors que, visiblement, ils viennent un petit peu de nulle part et pourtant vaincre des civilisations bien plus structurées et perfectionnées? Le savant arabe Ibn Khaldoun, dès le XIVe siècle, propose la théorie de l'asabiyya, la solidarité de groupe. Les nomades, semblant s'organiser en clans ou en tribus, ont un fort esprit de cohésion sociale qui les rend aptes à rouler sur les civilisations sédentaires où cet esprit est moins présent. Au contact de ces civilisations, ils perdent progressivement cet esprit de cohésion et sont à leur tour vaincus et renversés par d'autres nomades qui, eux, l'ont encore. Et ainsi de suite. Par exemple, les Seljoukides ont dominé l'empire islamique abbasside, déjà en déclin, puis ils se sont amollis à ce contact et se sont vus progressivement rognés, puis vaincus à leur tour, notamment par les Kara-Kitaï en Asie centrale ou par les Mongols en Anatolie. Puis, au XIXe siècle, alors que les sciences sociales commencent à se codifier, voire à apparaître, comme l'anthropologie, des juristes se penchent à leur tour sur ces questions. Ils posent alors la théorie de l'évolutionnisme social, qui propose une évolution par étapes de la société, allant de la sauvagerie à la civilisation, en passant par la barbarie. Ce qu'on va proposer à l'époque, c'est de dire qu'une société primitive, elle va structurer son pouvoir autour de la parenté. C'est-à-dire que des individus vont se regrouper autour des liens sociaux qui les unissent et que ça, bah, ça forme leur identité. Alors que, au contraire, une société évoluée, elle serait fondée sur le territoire. C'est-à-dire tout simplement l'endroit où les gens habitent, hein. Vous saisissez un petit peu la nuance. Ibn Khaldoun opposait donc les nomades aux sédentaires. Désormais, on va opposer les sociétés plus évoluées fondées sur le territoire et aboutissant à des États, à des sociétés dites primitives fondées sur la parenté, pour lesquelles on ressort le vieux terme de tribu venu du latin. Des familles forment ainsi un clan où l'identité commune est définie par un ancêtre commun, clan eux-mêmes rassemblés à une plus large échelle en tribu, où la position sociale de chacun va dépendre de son degré de parenté avec l'ancêtre commun à l'ensemble. Et tout ça semble vachement bien marcher pour les nomades, qui, depuis la nuit des temps, semblent vivre en famille et n'avoir pas évolué des masses, libres de se déplacer où ils veulent. Bon alors tout ça, c'est bien, mais là, on parle des débuts de l'anthropologie du 19e siècle. Autant vous dire que depuis, on a fait quelques progrès, hein, heureusement, et que notre vision a vachement évolué. Or, plus ça va, plus les anthropologues sont d'accord, le concept de tribu et tout le vocabulaire qui va avec, hein, comme chef, ça fonctionne assez mal, si ce n'est pas du tout. D'ailleurs, on peut doublement remettre en question cette représentation parce qu'elle a été théorisée en pleine période d'expansion coloniale. À cette époque, c'était bien pratique pour opposer un « eux » primitif à un « nous » civilisé, justifiant précisément le colonialisme. Mais du coup, que trouvent les anthropologues récents à la place des tribus? Eh bien, très souvent, des aristocraties, soit bel et bien des sociétés fondées sur la cohésion d'un groupe, où le degré de parenté à l'ancêtre commun définit la place sociale de chacun. Mais chez les élites seulement. Et ça, c'est une nuance très importante. Parce que finalement, ça se passe, comme en Europe, avec les différentes maisons aristocratiques, souvent plus ou moins cousines, très hiérarchisés, etc. Ce serait pareil pour les nomades d'Asie centrale, comme l'a montré David Snith. Si on y regarde de plus près, soit ces nomades ont un taux de natalité surnaturel permettant d'atteindre en quelques générations des dizaines de milliers d'individus descendant d'un seul et même ancêtre, les fameuses tribus, soit, plus logiquement, il faut considérer que les noms qu'on donnait jusque-là aux tribus seraient en fait uniquement les noms des lignages aristocratiques qui dirigent plein de gens que l'on va alors regrouper sous le même nom. Mais ces gens-là, ces sujets, ils n'ont aucun lien de parenté avec leur seigneur. Comme chez nous, si on prend la guerre des Deux Roses en Angleterre, on parle bien des Lancastres contre les York, tout en se disant bien que tous ceux qui combattent, ils sont pas forcément tous cousins. Hein. Et tout ça, ça va encore plus loin. Et vous allez le voir, ça implique une vision de l'histoire qui est pas vraiment celle que vous pensez. Si ces grands noms qui circulent dans les sociétés nomades et que l'on connaît aujourd'hui sont ceux de familles d'aristocrates, on constate qu'ils durent souvent très longtemps. Les Ashina régnant sur l'empire turc des 6e et 7e siècles, serait apparu sous l'empire des Xiongnu entre le 3e siècle avant notre ère et le 2e siècle de notre ère. Les Baroula, la famille de Tamerlan, remontent au moins au milieu du 12e siècle et perdurent via Babur jusque dans l'empire moghol au 19e siècle. Les Borjigin, la famille de Genghis Khan, feront de même du milieu du 12e siècle jusqu'au 20e siècle. Autrement dit, ces nomades, ils sont loin de pas avoir d'histoire ni de continuité de pouvoir. Ils sont pas sortis de nulle part. Et donc, ce que montrent les travaux récents, c'est qu'il y a une grande longévité politique et étatique dans ces sociétés. On trouve par exemple de très nombreux points communs aux différents pouvoirs de la steppe entre l'Antiquité et la période moderne. Ça peut être des rituels d'intronisation, les mythes fondateurs des dynasties, la symbolique des couleurs, de certains objets comme l'arc, la flèche ou la coupe, de certains chiffres 3, 4, 7, 9 et des directions cardinales. Ça peut être aussi les vallées ou les capitales qui étaient établies, comme celle de l'Orkhon en actuelle Mongolie, ou encore le vocabulaire politique. Parmi les titulatures, les titres des dirigeants, Kagan, Kahan, est présent dès le 2e siècle et il se retrouve ensuite partout jusqu'au 20e siècle, un peu comme le Kaiser latin qui a donné le Tsar slave, le Kaiser germanique et le Kaiser ottoman. Et c'est pas fini. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui changent. Parce que, souvenez-vous, je disais que Genghis Khan avait unifié les tribus dans un rigoureux système militaire de son invention, le système décimal. Là aussi, il n'est ni le premier, ni le dernier à prétendre l'avoir inventé. On va trouver des traces dès les Xiongnu de l'Antiquité, soit au plus tôt au 3e siècle avant notre ère, voire même avant chez les Scythes. Et ensuite, on le retrouve très régulièrement jusqu'au 19e siècle avec des variations dans la quasi-totalité des entités politiques nomades connues. Ce système, il était loin d'être uniquement martial. Simon Berger, étudiant particulièrement le cas mongol, le définit comme un système militaro-administratif. Il a montré qu'il était en fait à la base de tout le système politique et étatique nomade. Il a rigoureusement démontré que ce système englobait en fait toute la population qui était décomptée de façon très précise dans des registres. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que chez les nomades, l'armée, c'est l'État. Ainsi, une unité de 10 était en fait une unité de population capable de fournir, d'équiper et d'entretenir 10 soldats, et même le triple. Le soldat principal, un remplaçant et un écuyer, disons, susceptible de prendre la place du second en cas de mort du premier. Alors attention, c'est un petit peu complexe à comprendre, mais pour résumer, un truc qui marchait très bien, c'était de prélever une petite partie de chaque unité pour en former une nouvelle. Et ça, c'est bien pratique quand on part faire la guerre.
Lorsque les Mongols partent conquérir une partie du Moyen-Orient, dont Bagdad en 1258, le chroniqueur persan Rachid ad-Din nous dit, je cite, « De toutes les dizaines d'individus, deux furent prélevés hors du décompte, de telle façon que rien de la base ne soit diminué. » Donc, en gros, une unité de 10, c'était en réalité une unité militaro-administrative de 120 à 150 personnes, dont minimum 30 guerriers, qui produisaient tout ce dont elle avait besoin et versaient le surplus comme impôt. Et comme on retrouve des traces de ce système avant comme après les Mongols, il est plus que probable qu'il en allait de même chez les autres nomades.
C'est même évident chez certains chercheurs. Et donc, assez difficile de dire encore qu'ils vivaient en tribus chaotiques fondées sur la parenté. C'est bien plus structuré que ça, et on comprend beaucoup mieux comment ils pouvaient aisément écraser tout le monde quand ils l'avaient décidé. Alors, depuis tout à l'heure, je vous explique un petit peu tout ça, et on a laissé de côté Genghis Khan. Alors, c'est quoi le rapport avec la choucroute, vous allez me dire? Si ces peuples nomades étaient pas si désorganisés, et si ce système, il était très ancien, dans quelle mesure on peut vraiment faire confiance au récit d'un Genghis Khan génial et unificateur, capable de transformer le chaos des clans des steppes en ordre impérial puissant? On peut vraiment pas lui faire confiance. Désolé.
Pendant longtemps, on a fondé tout ce qu'on a pu produire de matière scientifique sur ce personnage sur la base, essentiellement, d'un seul texte, l'histoire secrète des Mongols. Et si on a fait ça, c'est de bonne foi. C'est la seule chronique écrite en mongol qui ait traversé le temps jusqu'à nous. Et donc, elle était potentiellement plus objective que les autres sources produites à l'époque par des sédentaires, chinois ou persans par exemple. Mais c'était un peu vite oublié dans quel contexte on avait pu l'écrire. Récemment, des historiens, Christopher Atwood, mais aussi Lamsuren Munkerden et Simon Berger, se sont repenchés là-dessus. Cette chronique mongole nous présente un Genghis Khan particulièrement génial, à l'enfance très difficile et quasi sauvage, qui parvient ensuite à triompher de ses innombrables ennemis, tous petits princes de la steppe, indépendants et rivaux. Et ce qui est fort, c'est qu'il arrive à faire ça malgré leur perfidie, leur traîtrise et leurs alliances contre lui, en déjouant de nombreux complots, en prônant la méritocratie, en se montrant toujours ferme mais juste malgré les injustices qu'il subit. Au final, il unit tout ce beau petit monde dans l'Empire mongol qu'il va créer en 1206. Un peu trop beau pour être vrai, carrément même. Cette chronique, elle est écrite selon toute vraisemblance en 1252, alors que l'Empire mongol est devenu une superpuissance redoutée à travers l'Eurasie, dont personne ne conteste plus la légitimité. Pas plus, donc, que celle du lignage à sa tête. Et surtout, on est 25 ans après la mort de Genghis Khan, et donc plus de 50 ans après les faits qu'elle relate. Autrement dit, s'il reste des témoins de cette époque, ils doivent pas être en très grande forme. C'est pratique donc de raconter ce qu'on veut quand seuls des papis peuvent protester. Mieux encore, elle est très probablement écrite à la demande du tout nouvel empereur, Mongke, fils de Tolui, le dernier enfant de Genghis Khan. Il est monté sur le trône un an avant, en 1251, et pas vraiment dans la dentelle. Pour la faire courte, Genghis Khan avait quatre fils. Évidemment, il y a eu de la tension dans l'air entre les quatre branches. En 1251, c'est celle de Tolui qui remporte la victoire, avec la montée sur le trône de Mongke, son fils aîné. C'est ce qu'on appelle la révolution toluide. Logique donc d'imaginer que Mongke se lance presque aussitôt dans ce qu'on appellerait aujourd'hui une opération de propagande, en ordonnant la rédaction de nouvelles chroniques qui racontent l'histoire de l'Empire selon cette nouvelle idéologie impériale en place. Bref, avec tout ça, vous l'avez compris, c'est d'autant plus difficile de faire confiance à l'histoire secrète des Mongols quand elle va nous parler du génialissime fondateur Genghis Khan. Mais heureusement, on peut faire un autre portrait si on s'intéresse aux traces qu'il a laissées parmi les sources, notamment dans des documents plus anciens. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est aller le traquer dans les textes des nouvelles chroniques toluides, parce qu'il y avait plusieurs auteurs qui n'avaient pas le temps de se mettre d'accord, visiblement, et les erreurs, les incohérences ou les omissions un petit peu trop grosses pour pas y voir que là, il y a un truc intéressant à fouiner, eh ben, ça nous aide. Un exemple tout bête. Est-ce qu'on doit dire « mongol » ou « tatar » ? Beaucoup de sources médiévales les appellent en effet comme ça, les « tatars ». Alors, oui, on trouve des voisins des Mongols du temps des débuts de Genghis Khan qui s'appelaient les Tatars. Mais c'était leurs ennemis jurés. Alors pourquoi est-ce qu'on appellerait les Mongols comme ça? Si on a longtemps cru que c'était là un choix littéraire des chroniqueurs chrétiens, qui associaient ainsi les Tatars au Tartare, le fleuve grec des enfers, pour signifier la menace que représentaient les Mongols, eh bien cette explication, elle ne suffit pas. Non seulement d'autres que les chrétiens occidentaux ou non les appelaient Tatars dans leurs textes, notamment dans le monde musulman, mais visiblement, eux-mêmes s'appelaient comme ça, comme le montre entre autres une lettre d'Ogodei, le deuxième empereur. L'historien Stephen Poe a ainsi répertorié les apparitions des deux termes dans un corpus de textes allant de l'Islande à la Corée. Et il s'est rendu compte qu'entre 1206, la fondation supposée de l'Empire, et 1250, Tatar est d'abord plus présent. La tendance s'inverse ensuite dans les années 1240, puis définitivement à partir de 1250. Autrement dit, les Mongols semblent avoir progressivement rejeté une première identité tatare au profit d'une seconde identité mongole. C'est un petit peu curieux, vous me direz, et pour comprendre ça, faut creuser encore un peu. C'est donc acté, les Mongols étaient bien initialement tatares, un terme qui lui remonte au moins au 5e siècle dans les textes chinois. Et ils ne seraient pas les seuls, puisque d'autres peuples parmi leurs voisins dans la steppe, juste avant la fondation de l'Empire mongol, le sont aussi. On a des textes qui parlent de ces voisins tantôt en les appelant par leur nom de lignage, comme les Kéraïtes ou les Merkites, tantôt par leur identité tatare, qui semble plus générale et donc commune à une bonne partie de la steppe de l'époque. Au 8e siècle, on a donc 9 maisons tatares dirigeantes qui sont sans doute alliées dans une confédération. Ces 9 maisons sont rassemblées au 11e siècle dans un puissant royaume par un certain Marx. C'est ce qu'on appelle le Khaganat des Tatars. C'est un royaume qui a duré un bout de temps et qui a laissé quelques traces. On connaît notamment 4 de ses rois qui sont tous issus de la même maison la maison des Kéraïtes.
Et les Kéraïtes, on les reconnaît dans les sources impériales mongoles écrites à partir de 1251. Selon leur version, c'est une maison aristocratique importante dans la steppe, mais parmi d'autres. Et on nous la présente jamais comme une maison royale dirigeant un royaume dont font partie leurs voisins. Alors que vous l'avez vu, c'était le cas. C'est pour cette raison donc qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que les Mongols se disent tatars au début de l'Empire. Ils reconnaissent encore qu'il y a peu, ils faisaient partie de ce royaume dont ils étaient, comme leurs voisins, des vassaux. Autrement dit, Genghis Khan n'a pas uni les différentes maisons aristocratiques de la steppe qui étaient rivales et indépendantes dans un nouvel empire. Il a renversé la dynastie dirigeant jusqu'alors le royaume tatar pour s'emparer du pouvoir et instaurer la sienne. Et ça, ses descendants qui ont transformé ce royaume tatar en un empire mongol, ils ne voulaient pas trop que ça se sache. Et maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir raconter la véritable histoire de Genghis Khan.
Genghis Khan, de son vrai nom Temujin, est né entre 1155 et 1167 parmi la noblesse mongole vassale de la maison régnante Kéraït. C'était initialement un officier à la cour de son roi, Ong Khan, le descendant du fondateur Marx. Or, ce souverain est de plus en plus contesté, notamment par ses frères. Temujin en profite alors pour progressivement, dans les années 1190, monter les échelons pour devenir le commandant en chef des armées d'Ong Khan. Il devient même son second, puis son régent. Des épisodes que l'histoire secrète, la fameuse unique source qu'on connaissait jusque-là, nous raconte aussi, mais à sa sauce, en présentant Temujin comme un jeune prince voisin pris sous son aile par Ong Khan. Prenant goût au pouvoir, Temujin envisage de se faire adopter par son roi, et ou d'unir sa famille à la sienne par mariage. Mais le fils héritier d'Ong Khan, évidemment, le prend mal et s'en inquiète. Il convainc alors son père de se méfier de son commandant en chef et même de partir en guerre contre lui. La puissante armée royale, évidemment, ne fait qu'une bouchée des troupes mongoles en 1203, ce qui oblige Temujin à se cacher avec ses derniers fidèles. Mais peu après, Temujin réunit quelques troupes à nouveau et parvient à les vaincre. Ong Khan et son fils sont en exil et Temujin peut réaliser son ambition.
Enfin, pas tout à fait. En fait, il pourrait monter sur le trône, mais il le fait pas, parce qu'il n'est pas légitime et il n'est pas de la maison Kéraït. Vous imaginez, ça mettrait un sacré bazar. Alors, qu'est-ce qu'il va faire notre Temujin ?
D'après Simon Berger, il met plutôt un frère d'Ong Khan sur le trône. Et il reprend ses anciennes fonctions de régent et commandant en chef, tout en dirigeant, de fait, le royaume. Jusqu'à ce que ce frère essaye de reprendre le contrôle total de ce royaume. Il va alors se révolter et, à son tour, il est vaincu. Temujin est alors seul à la tête du pouvoir, mais il n'est toujours pas légitime à se présenter comme souverain, comme Khan. Il n'est que Khan, commandant. Et il y avait bel et bien une différence entre ces deux titres. Comme l'a montré Simon Berger, c'est seulement loin de la steppe, où la légitimité Kéraït est moins importante, qu'il se fait appeler Khan, souverain, notamment sur des monnaies comme à Ghazna en actuel Afghanistan. Et c'est son fils, Ogodei, qui, le premier, prendra officiellement le titre royal, devenu même impérial, l'accordant rétrospectivement à son père.
Mais faut se dire un truc, c'est que Genghis Khan n'a jamais été officiellement empereur, pas plus qu'il n'a fondé d'empire ou créé le système décimal. Il s'est juste approprié tout ça et il a agrandi le royaume qu'il venait d'usurper. Bref, des nomades pas tribaux, une continuité aristocratique et politique sur plus de deux millénaires, des Mongols pas Mongols, un royaume tatar quasi effacé de l'histoire, un Genghis Khan pas empereur ni fondateur. S'il nous a peut-être fallu 8 siècles pour nous en rendre compte, rappelez-vous bien que même lorsqu'un savoir semble acquis, il faut jamais hésiter à approfondir avec rigueur et méthodologie. Pourquoi, vous me direz ? Parce qu'il n'y a que comme ça que la science avance. Merci à Frédéric Louarn, alias Hero.com, sur YouTube pour son super boulot sur cet épisode. C'est toujours un plaisir de bosser avec le copain qui va fouiller à fond ces sujets. Merci également à toute l'équipe de Nota Bene. Si vous voulez continuer de kiffer sur les Mongols, je vous invite à aller voir un vieil épisode que j'avais fait sur les invasions mongoles manquées sur le Japon. C'est vraiment un plantage en règle à partager sans modération.